Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Ascendi Deus in jubilatione Dominus in voce tube. Alléluia. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui la fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cierge pascal vient de s'éteindre. Notre Seigneur est monté aux cieux, liturgiquement parlant, où il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Mes très chers frères, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ est la suite logique de sa résurrection. Saint Jean Chrysostome dit que si les disciples n'ont pas assisté à la résurrection, ils furent néanmoins les témoins oculaires de l'ascension pour en rendre témoignage. La résurrection de notre Seigneur, ses seuls témoins, paradoxalement, furent les soldats qui gardaient la tombe et ils ont menti. Néanmoins, très rapidement après, juste après, il est apparu à Sainte Marie-Madeleine et aux saintes femmes, de telle sorte qu'elles ont apporté ce message aux apôtres. Et ensuite, comme vous le savez, avant même que notre Seigneur se manifeste aux pèlerins d'Emmaüs, il est apparu à Saint-Pierre. C'est pour cela que quand ils sont rentrés à Jérusalem en vitesse pour leur dire qu'ils avaient vu notre Seigneur, les disciples leur ont dit « Effectivement, notre Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon ». Vous connaissez ce texte, mes très chers frères. Dans les deux cas, que ce soit pour la résurrection que ce soit pour l'ascension, des anges sont apparus aux saintes femmes et ensuite aux disciples pour témoigner de la vérité du fait. Ils n'ont pas été le jouet des hommes, ils n'ont pas été le jouet de leur illusion, de leur imagination. Des anges sont apparus pour dire aux saintes femmes de ne pas craindre et pour dire aux disciples de ne pas rester vainement les yeux tournés vers le ciel, mais de faire ce que notre Seigneur leur a dit de faire. Avec l'ascension commence le règne de la foi, si l'on peut dire, qui est un règne transitoire, qui prendra fin lors du retour de notre Seigneur, lorsque nous n'aurons plus besoin de croire en lui, mais nous aurons simplement besoin de le voir, la foi étant, la vue étant le couronnement de la foi. Commence le règne de la foi. Nous vivons dans la période où il faut avoir la foi, selon ces paroles de notre Seigneur à saint Thomas, « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ce que l'Église enseigne à propos de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mes très chers frères, nous avons des choses à voir aujourd'hui en cette fête de l'ascension de notre Seigneur. Prions la très sainte Vierge Marie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. En ce temps-là, les onze étant à table, Jésus leur apparut et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressuscité. Seul Dieu, mes très chers frères, peut reprocher aux apôtres leur incrédulité. Seul le Fils de Dieu peut leur reprocher leur incrédulité. Lui qui est l'auteur de leur foi. Cela nous enseigne un certain nombre de choses sur l'être humain tel qu'il est depuis la chute. La dureté de notre cœur ne peut être vaincue par des raisonnements ou même par des démonstrations ou même par des miracles. Si Dieu ne nous accorde pas une grâce efficace pour que nous croyions. C'est pour cela que l'apôtre dit « La foi est un don de Dieu ». Si Dieu ne nous donne pas de croire, nous ne pouvons pas croire. C'est pour cela qu'il y a une certaine naïveté à vouloir, par des moyens au fil du temps de plus en plus humains, de plus en plus charnels, si j'ose dire, démontrer aux hommes que le christianisme est la bonne religion. Il l'est, elle l'est, il l'est, évidemment. Et nous allons dire quelque chose pour corriger les mauvaises interprétations de ce que nous disons dans un instant. Mais comment, à notre époque, ne pas voir que dans chaque religion, on a des arguments pour montrer que la religion est bonne? Voyez? Et c'est comme cela que des gens se convertissent à toutes sortes de religions diverses et variées, lointaines ou plus proches de nous. Ils se convertissent à ces religions parce qu'ils disent « certains arguments m'ont touché, certaines évidences m'ont convaincu ». Évidemment, et nous nous empressons de le dire, tout ce que nous enseigne la foi, tout ce que nous enseigne, tout le contenu de la foi, tout ce que nous enseigne l'Église, est une vérité objective. Tout ceci est fondé sur les prédictions des prophètes qui se sont réalisées, sur les miracles de notre Seigneur Jésus, de notre Seigneur Jésus-Christ, dont personne en réalité ne doute. Et c'est intéressant de voir que si, par exemple, les mécréants, les scientifiques, peut-être de l'ancienne école, etc., doutent même de l'existence de notre Seigneur, il suffit de se tourner vers les juifs apostats, les juifs déicides, etc., et d'ouvrir un petit peu leurs livres, en tout cas d'écouter ce qu'ils disent, pour les entendre dire « ce prophète, ce faux prophète, a fait une quantité de miracles, mais c'était par la magie, la sorcellerie, etc. » Donc même eux confessent que notre Seigneur a fait une quantité de miracles. Pourquoi ne croient-ils pas, et ce n'est pas les seuls évidemment, pourquoi ne croient-ils pas, parce que, eux et les autres, parce qu'il faut une grâce spéciale de Dieu pour croire. Si nous étions dans le paradis terrestre et que nous voyions les preuves de la religion, nous dirions, eh bien, si je ne croyais pas déjà, je croirais parce que mon esprit est convaincu par ces évidences. Mais nous sommes chassés du paradis terrestre. Nous sommes déchus. Nous sommes dans un état où nous ne fonctionnons pas, si j'ose dire, normalement. L'homme naturel n'est pas un homme simplement humain. C'est un monstre qui fonctionne à rebours de sa raison d'être. Donc voyez, mes très chers frères, bien sûr que la religion se fonde sur des preuves et des choses très convaincantes. Bien sûr que la religion nous enseigne des faits objectifs qui ne relève pas de l'illusion ou de la supercherie humaine, bien entendu. Mais si nous n'avons pas, de la part de Dieu, une grâce spéciale qui nous donne de croire, nous n'arriverons pas à croire. Parce que la foi est un don de Dieu, et ce n'est pas quelque chose dont nous trouvons la capacité ou la force à l'intérieur de nous-mêmes. Nous pouvons croire, parce que nous sommes des êtres humains, donc nous sommes faits pour croire, mais pour pouvoir croire efficacement, il faut une grâce de Dieu. Et je vais rajouter quelque chose maintenant. Quand bien même nous aurions reçu cette grâce efficace de Dieu qui nous ferait croire, et c'est déjà quelque chose de très rare, surtout à notre époque, cela ne serait pas tout. Parce qu'il ne suffit pas de croire simplement, il faut porter les fruits, il faut porter les œuvres, il faut faire les œuvres de la foi. Donc voyez, mes très chers frères, toutes ces choses que nous enseigne l'Église, maintenant que nous avons cru et que nous croyons, nous amènent à une première, disons, position, un premier positionnement vis-à-vis des gens qui ne croient pas, et nous avons une double attitude vis-à-vis d'eux, nous qui croyons, nous qui sommes les familiers de Dieu. D'une part, lorsque nous voyons le monde mécréant, nous ne sommes pas comme de ceux qui crachent sur les impies et qui disent et qui les méprisent en leur reprochant de ne pas avoir reçu la grâce de Dieu. Ça serait une très grande cruauté. Et puis, ça serait aussi, si j'ose dire, ça ne serait pas très malin pour nous, puisque Dieu nous ayant donné sa grâce totalement gratuitement, il n'y a pas plus de raison que Dieu nous ait donné à nous la grâce qu'à eux. Et eux, peut-être qu'ils ne l'ont pas encore reçue et qu'ils la recevront. Il ne faut jamais désespérer du salut de quiconque tant qu'il est vivant. Donc vous voyez, d'une part, nous devons avoir, par rapport à ceux qui n'ont pas la foi, un regard de pitié et ils doivent exciter notre compassion. Nous devons prier pour eux et l'Église est la première à prier pour eux puisque, vous savez, lors des grandes oraisons, elle prie pour tous ceux qui errent à l'extérieur de l'Église, qui errent dans les ténèbres de l'idolâtrie ou de l'erreur, etc., pour toutes sortes de gens. Maintenant, il se trouve que le chrétien, donc, ne méprise pas ceux qui n'ont pas la foi. Mais d'un autre côté, et donc il prie pour eux, d'un autre côté, ces gens-là leur font horreur comme lui-même se fait horreur quand il pense à ce qu'il était autrefois. Je vous renvoie au sermon de dimanche dernier. Lorsque nous réfléchissons sur ce que nous étions autrefois, nous en avons horreur comme quelqu'un qui marche à côté d'un précipice et qui, étant arrivé en un lieu sûr, regarde où il est passé et est pris d'angoisse et de palpitations. Il est sain et sauf, il est hors de danger, mais rétrospectivement, en pensant au danger qu'il a couru, il a très peur. Eh bien pour nous, mutatis mutandis, c'est la même chose. Lorsque nous voyons les gens du monde, lorsque nous voyons les mécréants, lorsque nous voyons tous ces gens qui n'ont pas reçu la grâce que nous avons reçue, eh bien, nous avons très peur. Et cette peur, évidemment, n'est pas une peur stérile. C'est une peur qui se transforme toujours en reconnaissance. Merci, mon Dieu, de ne pas m'avoir laissé dans cette masse de damnation, comme dit notre Père saint Augustin. Merci de m'avoir donné votre lumière, votre grâce. Vous voyez, comment pourrions-nous nous enorgueillir par rapport à ceux qui sont encore dans le monde? Ils nous font horreur, mais cette horreur se transforme en reconnaissance. Donc voilà la première attitude que nous devons avoir par rapport aux gens du monde. Ils doivent exciter notre pitié. Nous devons prier pour eux, spécialement pour les gens de notre famille, vous voyez, les gens qui nous sont plus proches, même si l'on peut prier pour le monde entier en général. Et d'un autre côté, ils doivent nous faire horreur, comme nous-mêmes nous faisons horreur quand nous pensons à nous-mêmes, à notre état passé. Maintenant, tout ce que nous avons dit est vrai, mais la deuxième attitude que nous devons avoir par rapport à ceux qui n'ont pas la foi, c'est tout de même d'éviter leur fréquentation. Parce que voyez-vous, le chrétien ne doit pas être naïf, il doit être doux comme une colombe, mais rusé comme un serpent. C'est-à-dire qu'il verse volontiers des larmes sur le monde qui se perd, à cause de sa méchanceté, à cause de sa mécréance, mais d'un autre côté, il sait aussi très bien, parce qu'il l'a été, mécréant autrefois, il sait très bien que quand on n'a pas reçu la grâce, on n'est pas simplement dans un état où on est dans une sorte de potentialité de réception de la grâce et que l'on attend en se tournant gentiment les pouces. Il sait très bien que quand on n'a pas la grâce, on n'en fait qu'à sa tête. Et quand on n'en fait qu'à sa tête, on fait à peu près tout ce qu'il faut pour exciter la colère de Dieu. Donc voyez, mes très chers frères, nous avons pitié du monde qui se perd et nous prions pour lui et éventuellement, si l'occasion nous est donnée, nous témoignons de notre foi, sachant que Saint-Pierre nous demande d'être toujours prêts à rendre témoignage de l'espérance qui est la nôtre. Bien entendu, nous ne devons pas nous taire. Si quelqu'un nous dit comment être sauvé, c'est pas le moment de se dire « Ah, je préfère rester sur mes gardes et ne rien dire ». C'est le moment de prêcher l'Évangile, voyez, en union avec l'Église, bien entendu, et comme vous le savez, nous n'allons pas répéter tout ce que nous disons habituellement. Maintenant, il se trouve que si ce n'est pas dans ce cas-là, si nous ne sommes pas dans ce cas-là, alors il vaut mieux éviter la fréquentation. Et quand on ne peut pas éviter la fréquentation, saint Paul nous dit, il faut éviter de les fréquenter avec notre cœur. C'est-à-dire qu'il faut bien travailler dans ce monde, il faut bien fréquenter, d'une certaine manière, les gens qui sont mécréants. Mais c'est une chose que de les fréquenter, et même d'être constamment plongé parmi eux parce qu'on ne peut pas faire autrement, et puis c'en est une autre que d'être des leurs. Voyez ? Ces gens-là n'ont pas la foi. Or, la foi produit, si j'ose dire, l'absence de foi produit l'absence de charité. On ne peut pas avoir la charité sans la foi, on ne peut pas aimer Dieu réellement sans avoir la foi catholique. Et en même temps, même si on avait la foi, on sait qu'on peut oublier la charité. Alors si on n'a pas la foi, on n'a certainement pas la charité. Et quand on fait des actions, et surtout des actions bonnes, sans la charité, on déplaît à Dieu peut-être plus qu'un pécheur, paradoxalement. Donc nous devons éviter de fréquenter volontairement ces gens-là, encore une fois autant qu'ils dépendent de nous, bien entendu, mais nous devons éviter leur fréquentation, nous devons éviter leur amitié, nous devons éviter d'être en lien affectif et en lien, si on peut dire, plus que simplement de politesse et de travail, en lien réel avec eux, tout simplement parce que si la vie chrétienne est comme une... Si l'Église est comme une cordée qui monte vers le sommet de la montagne, les mécréants sont des gens qui ont tendance à couper la corde. Oui, si j'ose dire, si on pouvait utiliser cette expression, c'est un exemple qui est assez partiel, disons. Donc, vous voyez, sans la charité, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que, pendant 40 jours, notre Seigneur Jésus-Christ s'est montré aux apôtres et a mangé avec eux et leur a donné de nombreuses preuves de sa résurrection. Il leur a parlé du royaume de Dieu. Et certains auteurs nous disent que ces 40 jours, depuis la résurrection jusqu'à l'ascension, ont été comme un petit paradis terrestre pour les apôtres. C'est un petit paradis terrestre au cours desquels notre Seigneur, comme dans le paradis terrestre avant la chute, notre Seigneur conversait familièrement avec ces hommes qu'il venait de créer. Vous voyez, il conversait avec nos premiers parents, il conversait familièrement avec les apôtres qui venaient d'être, en quelque sorte, qui étaient déjà baptisés, mais qui venaient d'être, en quelque sorte, absous des faiblesses terribles qui avaient été les leurs, en tout cas pour certains d'entre eux, durant la passion. Vous savez lesquelles, la trahison, etc. Donc, vous voyez, mes très chers frères, notre Seigneur, pendant 40 jours, les tient auprès de lui, d'une façon cachée. Notre Seigneur ne s'est plus montré aux hommes, sinon à ses apôtres. Mais même là, faisons attention, comme nous disions la dernière fois, de ne pas être nostalgique d'une mauvaise façon. C'est-à-dire que cela ne sert à rien de se dire « les apôtres ont eu bien de la chance d'être 40 jours avec notre Seigneur, nous qui vivons sous le régime de la foi pure, la foi seule, si l'on ne croit pas, il n'y a pas d'autre moyen d'être en lien avec notre Seigneur Jésus-Christ. » Eh bien, mes très chers frères, il faut que vous sachiez que ces 40 jours au cours desquels notre Seigneur a conversé avec ses apôtres sur terre avant son ascension, ne leur aurait été d'aucune utilité s'il ne s'en était pas allé et s'il ne leur avait pas envoyé son Saint-Esprit. Écoutez bien la façon dont il se prend pour faire qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il leur ordonna, dit Saint-Luc dans les Actes des Apôtres, il leur ordonna de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père que vous avez, dit-il, entendue de ma bouche. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint dans peu de jours. Il leur dit, au cours d'un repas, de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi ? Après tout, le Saint-Esprit peut être donné n'importe où. C'est un ultime commandement que notre Seigneur leur fait pour éprouver leur foi. Et là, il faut dire que leur foi a été obéissante et que tout s'est bien passé. Il leur ordonna de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que, premièrement, Jérusalem, c'est le centre du monde, donc c'est le lieu où notre Seigneur est mort, c'est le lieu où il est ressuscité, c'est aussi le lieu où le Saint-Esprit devait être donné et à partir duquel il devait se répandre sur la surface de la terre. Bon. Maintenant, Jérusalem, c'est le lieu désigné par notre Seigneur pour attendre le Saint-Esprit. Imaginez que les disciples, pris d'une réflexion incongrue, et se disant que le Saint-Esprit n'est pas limité par des lieux, se soient répandus sur la surface de la terre et aient dit « le Saint-Esprit tombera sur nous là où nous serons ». Eh bien, il n'y aurait pas eu d'église. C'était impossible, évidemment. Ne sous-estimons pas cet ordre de notre Seigneur, ne sous-estimons pas non plus l'obéissance des disciples. Il fallait, nous disent les commentateurs, pour rester à Jérusalem, pourquoi est-ce que notre Seigneur leur a demandé et ordonné de rester à Jérusalem ? Parce qu'il fallait qu'ils désirent le Saint-Esprit, et si on est en voyage selon sa volonté propre, on ne peut pas se concentrer sur le désir du Saint-Esprit, comme on le fait lorsqu'on reste dans un lieu parce que notre Seigneur nous a ordonné d'y rester. Il fallait donc qu'il désire le Saint-Esprit, il fallait qu'il l'attende dans l'obéissance. Il en va toujours ainsi. Si nous attendons le Saint-Esprit, nous devons l'attendre dans l'obéissance. Premièrement, la foi que nous enseigne l'Église, le contenu de la foi que nous enseigne l'Église, fait que nous sommes enseignés, de telle sorte que notre intellect est structuré par les vérités que nous enseigne l'Église. Ensuite, ces vérités nous conduisent à développer le désir de produire des œuvres. Mais les œuvres de la foi. Mais ces œuvres, pour les produire, il faut être conscient de l'incapacité que nous sommes, dans laquelle nous sommes, de les produire sans la grâce. Donc, d'une part, enseignement, d'autre part, désir de faire des œuvres et en même temps, conscience de notre impuissance, et ensuite, station dans notre état, il faut être dans notre état, sans en sortir. Vous voyez, c'est une triple réalité, une triple condition, en dehors de laquelle on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Nombreux sont ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit, qui le demandent, qui font des neuvaines, et c'est une bonne chose que de faire des neuvaines, et vous pouvez commencer la neuvaine demain pour préparer la Pentecôte, bien entendu. Mais nombreux sont ceux qui demandent le Saint-Esprit, mais qui ressemblent un petit peu à des gens qui ont très soif. Demander le Saint-Esprit, c'est avoir soif de Dieu. Qui ont très soif, qui tendent un verre à quelqu'un qui a, mettons, une carafe d'eau, et qui en même temps sont constamment en train de bouger ce verre. Vous savez très bien que celui qui verse de l'eau fait un mouvement très précis, et c'est un mouvement qui exclut l'agitation, parce que sinon on en met partout, pour dire familièrement. Donc, si la personne verse de l'eau, mais que la personne et l'autre, la personne qui a soif est constamment en train de bouger son verre, est-ce qu'elle va recevoir quelque chose? Elle ne va rien recevoir du tout. Si nous ne sommes pas fidèles à l'état dans lequel la Providence nous a placés, nous ne pourrons pas recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est à Jérusalem, c'est-à-dire c'est dans notre état, c'est au centre de notre état, que nous pouvons, avec l'obéissance et moyennant l'enseignement, bien entendu, le désir, recevoir le Saint-Esprit dont nous avons tant besoin pour mener une vie à la gloire de Dieu. L'œuvre recréatrice de notre Seigneur Jésus-Christ, par le baptême, constitue une créature nouvelle capable de la vie éternelle. Et l'œuvre vivificatrice du Saint-Esprit ne se réalise que lorsque la nouvelle créature se tient tranquille dans son lieu propre. Et c'est l'obéissance pour l'amour de Dieu. Il y a donc là, mes très chers frères, un enseignement fondamental dans cette veille de la Pentecôte, l'enseignement fondamental selon lequel non seulement nous devons désirer le Saint-Esprit, ce que à peu près tout le monde fait, mais nous devons aussi attendre avec stabilité dans notre état, moyennant l'obéissance à nos divers devoirs d'état, ce que presque personne ne fait. Beaucoup demandent le Saint-Esprit et très peu l'obtiennent. Pourquoi? Parce que pour recevoir la quantité de Saint-Esprit, si j'ose dire, dont nous avons besoin, il faut que nous soyons dans l'immobilité de l'obéissance. Dans le verset de l'Alléluia, il est dit « Comme lorsqu'il vint du Sinaï en son sanctuaire de Sion, le Seigneur, montant aux cieux, a captivé la captivité. » Nous devons comprendre que si notre Seigneur veut que nous restions fidèles dans notre état, c'est parce qu'à partir de cet état, il peut, et il va, et il veut, nous entraîner vers le ciel, nous qui étions les captifs du diable autrefois, nous sommes devenus les captifs de Dieu, les captifs du Christ, et dans son cortège triomphal, il nous emmène au ciel. Le Christ entrant au ciel, lors de son ascension, c'est notre chef, entrant dans la gloire, de telle sorte que le corps puisse aussi y entrer. Donc notre Seigneur veut que non seulement nous lui obéissions comme les apôtres lorsqu'il veut que nous lui obéissions, mais il veut que nous lui obéissions constamment, de telle sorte que toute notre vie, quels que soient les mouvements que nous ayons à faire, ne soit qu'une vie vécue au centre de toute chose, à Jérusalem, dans l'attente du Saint-Esprit et dans la réception du Saint-Esprit. De telle sorte que par la suite, notre Seigneur dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et dans le monde entier ». Voyez, dans la mesure où nous sommes au centre de la volonté de Dieu par la station dans notre état et par la fidélité à nos divers devoirs d'état, alors nous commençons à rayonner. Vous voyez, Jérusalem est au centre de la Judée, la Samarie borde la Judée, et ensuite le monde entier tourne autour de Jérusalem, en réalité. Vous voyez, si nous voulons avoir une influence sur les impies qui se perdent, et si nous voulons rendre fécondes nos prières, si nous voulons avoir une influence sur notre famille, si nous voulons avoir une influence sur les gens que nous fréquentons de par notre travail, etc., soyons ancrés à Jérusalem, où et là où seul le Saint-Esprit est donné. Vous voyez, soyons fidèles dans notre devoir d'État, si petit soit-il, si modeste soit-il, et c'est à partir de là que nous rayonnerons. Si nous essayons de sortir de notre devoir d'État afin d'essayer de porter la bonne parole plus loin, nous allons plutôt contribuer à la propagation des ténèbres. Si nous sommes fidèles à notre État, alors nous allons rayonner, et je vais vous dire une chose, nous allons même rayonner sans en être conscients, et c'est encore mieux. Comme ça, nous aurons le minimum de tentations d'orgueil. Vous voyez ? Si je suis une mère de famille et que j'accomplis tous les devoirs qui sont relatifs à ma tâche, qui est une tâche très humble, très répétitive, très cachée, alors je vais être comme une, comme une lampe, non pas une lampe sous le boisseau, mais une lampe placée là où elle doit être placée, qui fait exactement sa fonction. Vous voyez, quand vous avez une flamme cachée quelque part sous quelque chose, on n'a même pas besoin de la voir, on ressent la chaleur. Vous voyez, eh bien, il en va de même pour l'être humain. Si je suis un père de famille, si je suis un religieux, si je suis un clerc, etc., et que je suis fidèle à mon devoir d'État, alors je vais pouvoir rayonner d'une manière visible ou invisible, peu importe, ça sera à Dieu de voir, mais je vais rayonner, sachant que on n'a pas droit à une fausse humilité qui consisterait à dire « Oui, moi je ne demande pas à rayonner, je ne demande pas… » Notre Seigneur a dit « Vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on » Nous n'avons pas le choix, mes très chers frères, ou bien nous rayonnons, ou bien nous serons châtiés parce que, ayant reçu la grâce, ayant reçu la foi, ayant reçu les vrais sacrements, ayant reçu la bonne doctrine, nous n'avons rien utilisé de tout cela pour vivre à la gloire de Dieu, pour vivre dans une véritable reconnaissance. Accordez-nous, c'est l'oraison d'aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, à nous qui croyons qu'en ce jour votre Fils unique, notre Rédempteur, est monté au ciel, accordez-nous d'habiter régalement nous-mêmes en esprit dans les cieux, par le même Jésus-Christ, etc. Nous croyons, je crois que personne ici dans cette chapelle ne doute de la véracité de l'ascension. Deo gratias, nous sommes tous d'accord, nous sommes tous catholiques, nous sommes tous orthodoxes. Maintenant, puisque nous croyons qu'en ce jour notre Seigneur est monté au ciel, prions que notre Seigneur nous donne d'habiter également nous-mêmes, ipsi quoque, également nous-mêmes, en esprit, dans les lieux célestes, in celestibus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la foi qui est la nôtre porte des fruits quand nous habitons dans les lieux célestes. Vous allez dire, pour l'instant, nous sommes encore sur terre, nous habitons sur terre. Et c'est vrai. Notez bien, les fruits de la foi ne se manifestent que sur terre. Au ciel, il n'y a plus les fruits de la foi. Et ne soyez pas étonnés si je dis ça, parce qu'il n'y a pas il n'y a plus les fruits de la foi, il y a la récompense des fruits de la foi. Au ciel, au purgatoire, qui est un peu l'antichambre du ciel, sous un certain rapport, on ne mérite plus. Vous voyez ? Enfin, on s'entend. C'est-à-dire qu'on ne mérite plus comme quand on est en état de voie. Donc, il se trouve que si nous avons la foi, et nous l'avons par la grâce de Dieu, alors nous devons être conscients que, à moins d'habiter en esprit dans les cieux, nous ne pouvons pas produire les œuvres de la foi ici-bas. Ça peut paraître une sorte de gymnastique mentale un peu étrange, mais vous allez comprendre. Que sommes-nous? Est-ce que nous sommes un tel, un tel, un tel, ici, réunis, parce que nous croyons tous plus ou moins la même chose et que nous sommes contents d'être là? J'espère que nous sommes contents d'être là, mais enfin, ce n'est pas la raison principale pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là parce que nous aimons Dieu parce que nous avons reçu la grâce nous a fait croire à ce que nous enseigne l'Église catholique. L'Église catholique n'est autre que le corps mystique du Christ. Par le baptême, nous sommes devenus membres de ce corps mystique du Christ. Donc, que sommes-nous? Nous ne sommes pas un tel, un tel, un tel rassemblé. Nous sommes les membres du corps mystique du Christ. Si nous sommes les membres du corps mystique du Christ, nous devons être conscients que nous ne sommes pas les membres d'un corps décapité dont la tête serait au ciel et dont le corps girait ici-bas sur la terre dans un état de déliquescence terrible. En même temps, vous allez dire, nous sommes sur terre, et notre Seigneur est au ciel, ça fait loin entre le corps et la tête. Justement, c'est pour cela que nous demandons d'habiter également nous-mêmes en esprit dans les lieux célestes, ou dans les choses célestes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie en réalité, mes très chers frères, que nous sommes moins sur la terre que dans les cieux, là où est notre chef. Notre chef n'est pas séparé de sa tête, de son corps. Le corps n'est pas séparé de sa tête. Ça signifie que nous sommes actuellement, par l'esprit, si nous prions de tout notre cœur cette oraison, unis à notre Seigneur Jésus-Christ qui est au ciel, mais comme nous sommes encore en état de voie, c'est un fait, je n'ai pas le prouver, puisque nous sommes là, vous m'écoutez par les sens de l'ouïe, donc le sens de l'ouïe, donc vous êtes encore vivant en état de voie, nous devons produire des œuvres. Vous allez dire, ça fait un petit peu étrange d'entendre dire que, alors que nous sommes dans les lieux célestes dans le Christ, nous sommes ici-bas sur terre, et nous sommes dans le ciel, et nous devons produire des fruits sur la terre. Regardez un arbre. Il a les racines cachées dans la terre. C'est eux, c'est elles qui se nourrissent de toutes les bonnes choses qui sont dans le sol, qui prennent l'eau. Et très haut, au-dessus des racines, dans une autre réalité, la réalité du monde de l'air, du soleil, etc., alors que les racines sont dans la réalité du monde de la terre, de l'eau, etc., de l'obscurité, il y a des fruits qui poussent. On ne va pas dire, c'est curieux que les fruits ne poussent pas sur les racines, c'est ainsi. On ne va pas refaire la nature. Donc, ne disons pas, c'est curieux de savoir que nous nous sommes assis dans les cieux avec le Christ, dans le Christ par l'Esprit, et que par ailleurs nous portons des fruits ici-bas. On dirait qu'il y a une sorte de dichotomie, de schizophrénie. Pas du tout. Comment cela se réalise-t-il? Comment être dans les lieux célestes? Comment habiter également nous-mêmes en esprit dans les lieux célestes? Lorsque nous sommes d'une part animés par le désir du ciel, le désir du ciel nous fait tendre vers le ciel, donc unifie toutes nos actions. Si nous désirons aller au ciel, nous allons donc exclure toutes les actions qui nous empêchent d'aller au ciel. Ça exclut déjà tout ce qu'un chrétien ne peut pas faire. Ensuite, si nous désirons aller au ciel, notre Père Saint-Augustin nous dit que le désir du ciel, c'est déjà une pré-participation du ciel. Donc, nous sommes au ciel. Non pas nous qui vivons ici-bas, mais nous qui vivons ici-bas, nous ne sommes jamais qu'une forme, si j'ose dire, du Christ total qui est au ciel, à la droite de Dieu. Nous sommes comme délégués dans l'état de voie, ici-bas, quoique nous soyons réellement dans le Christ, et je dirais même le Christ, en haut, dans le ciel. Nos racines sont au ciel, et les fruits sont portés ici-bas sur la terre. Vous comprenez, il ne s'agit pas de faire de l'équilibrisme ou de l'extension. Il s'agit d'avoir notre cœur là où sont les vrais biens, comme dit une autre raison. Il s'agit d'avoir notre cœur dans cette source d'eau vive qui fait que l'arbre porte son fruit en sa saison. Si notre cœur n'est pas dans les choses de Dieu, si nous sommes dissipés dans les amitiés avec les mécréants, si nous entretenons avec eux des liens qui nous attachent à cette terre, même des liens relativement innocents, mais des liens qui nous attachent à cette terre, d'une façon charnelle, alors nous n'habiterons pas dans les cieux, dans les choses célestes, et nous serons incapables de réaliser, la grâce sera incapable de réaliser par nous, cette prière du Pater Noster, Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Que votre volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Mais dans le latin, nous disons que votre volonté soit faite comme elle est au ciel, ainsi sur la terre. C'est un peu difficile en français, mais c'est ainsi. Il y a d'abord la volonté de Dieu au ciel, il y a d'abord le Saint-Esprit à Jérusalem, il y a d'abord la station dans son devoir d'État, et ensuite, sur la terre, c'est-à-dire sur là où nous sommes, il y a la manifestation de cette réalité. Il y a d'abord les racines dans l'engrais et dans la terre, et ensuite, en haut, dans l'air, près du soleil, il y a les fruits qui poussent. Nous devons opérer depuis le ciel, si j'ose dire. Il faut agir selon les principes structurateurs, non selon notre volonté propre, qui est l'organe du vieil homme, l'organe de Satan, en réalité. Notre volonté propre détruit tout ce qui est bon. Si nous mettons de côté notre volonté propre et que nous faisons coïncider notre volonté, la puissance de l'âme volonté, avec la volonté de Dieu, sachant qu'elle se polarise pour chacun de nous, spécialement dans les divers devoirs de notre état, alors nous habiterons réellement, nous aussi, dans les lieux célestes, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Nous serons inébranlables, et c'est ainsi que nous voyons les martyrs produire du bon fruit, alors même qu'ils sont dans les situations les plus épouvantables du point de vue humain. Pourquoi? Parce qu'ils habitent eux aussi dans les lieux célestes. Alors, mes très chers frères, terminons en priant la secrète d'aujourd'hui. Agréez, Seigneur, les dons que nous vous offrons pour honorer la glorieuse ascension de votre Fils, et accordez-nous dans votre bonté d'être délivrés des périls de la vie présente et de parvenir à la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.